Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Colorline, c'est cette ligne, ou plutôt cette fracture, ce mur invisible, derrière lequel ont vécu et vivent encore les citoyens américains d'origine africaine. Colorline, c'est le titre et le thème d'une exposition qui vient d'ouvrir à Paris, qui est le fruit d'un énorme travail à travers l'histoire consciente et inconsciente des États-Unis, telle que la vivent et la représentent les artistes. Une vaste enquête signée du philosophe et critique d'art Daniel Soutif, qui est notre invité.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root.
Les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles, du sang sur les racines. Un corps noir se balance dans la brise du sud, étrange fruit pendu au peuplier. Voilà un grand classique, ce poème écrit en 1936 par l'écrivain enseignant juif new-yorkais Abel Meeropol, dont le nom de plume était Louis Alan. C'est la chronique d'un lynchage qui est porté, on le sait, par la voix de Billie Holiday. Bonjour Daniel Soutif.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un demi-siècle a passé depuis la loi sur les droits civiques de 1965, qui visait notamment à éradiquer totalement les lynchages et qui mettait fin, ou prétendait mettre fin, à toute forme de discrimination. Une loi qui était mise en œuvre par Kennedy, on le sait, qui a été finalement promulguée après sa mort par Lyndon Johnson. Mais les lois sont difficiles à changer, certes, mais il est encore plus difficile de changer les mentalités. Et pour comprendre ce qu'a été et ce que continue d'être la condition noire aux États-Unis, ce que cela nous dit de ce pays qui est le plus puissant au monde et de son inconscient, bien, on va regarder avec vous du côté des artistes visuels, des peintres africains-américains, comme on dit, puisque c'est la partie un peu oubliée, peu visible, curieusement, de l'expression noire américaine.
Oui, c'est vrai. Surtout de ce côté de l'Atlantique, parce que les choses ont commencé de changer maintenant aux États-Unis depuis 30-40 ans. À partir des années 70, il y a eu un embryon de visibilité pour tous ces artistes. Et puis au cours des années, cette visibilité est devenue de plus en plus grande. Et les mêmes, on peut dire aujourd'hui, tout à fait remarquables. Les musées américains, le marché, tout cela accorde aujourd'hui une très très grande visibilité aux artistes noirs, aussi bien historiques que contemporains. Ce phénomène n'est pas encore sensible en Europe. Peut-être un peu en Angleterre, parce qu'il y a un chemin plus direct, certainement, sur le plan culturel entre les États-Unis et l'Angleterre. Les Anglais ont eu des belles expositions déjà au cours des 15-20 dernières années consacrées aux artistes noirs. Mais en Europe et en France en particulier, qui est un pays qui a pourtant été très accueillant en ce qui concerne la musique, les écrivains. En tout cas, en Europe et en France en particulier, donc, je constate que la plupart des artistes relevant de ce qu'on appelle l'art visuel, les peintres, les sculpteurs, eh bien, sont à peu près tous inconnus.
Oui, quand on visite New York, on ne va pas au Studio Museum, on ne visite pas le Schoenberg Institute. L'art africain-américain est noyé dans les collections des grands musées.
Oui, le Studio Museum, il est certainement plus fréquenté qu'il ne l'était quand j'y suis allé pour les premières fois, moi, dans les années 80. Je me rappelle avoir...
Donc c'est au cœur d'Harlem.
Oui, c'est 125e rue, c'est presque en face de l'Apollo Theater, qui lui est très célèbre. Le Studio Museum, il a été créé en 1968, et moi j'y suis allé pour la première fois, je pense, en 1988 ou 89, et j'étais vraiment un des rares de mon genre, en quelque sorte, à aller là. Quand j'en parlais à des amis français ou américains, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ?» Tout ça a changé quand même, a beaucoup changé depuis cette époque. Là.
Et puis il y a la création toute récente, il y a à peine un mois, du National Museum of African American History and Culture, hein, le musée afro-américain à Washington, donc sur Museum Row, vraiment le lieu de visibilité des identités américaines.
Alors, c'est vrai que c'est un événement très important, mais ça n'est peut-être pas un événement si important que ça sur le plan artistique, parce que c'est, comme vous venez de le dire, c'est un musée d'histoire et de culture, ça n'est pas un musée d'art. Ce qui, et je pense que c'est un musée très intéressant à visiter, je l'ai pas encore vu, moi, et d'ailleurs, j'ai entendu dire que si j'allais à Washington, je pourrais pas le visiter avant le mois de janvier parce que toutes les entrées sont bloquées jusqu'à ce moment-là, il faut réserver à l'avance, ça a l'air d'être un gros événement. Mais je pense que si on veut voir de l'art africain-américain, c'est devenu possible maintenant dans les grands musées parce que parce que les grands musées ont commencé de montrer les éléments de collection dont ils disposaient déjà depuis un certain temps, soit parce qu'ils achètent actuellement de façon à combler les trous, à constituer une histoire un peu plus continue, un peu plus complète. Ils achètent beaucoup d'œuvres d'art historiques ou contemporaines ou modernes produites par des artistes africains-américains. Le Metropolitan, par exemple, avait déjà fait... C'est une des choses qui m'avait mis la puce à l'oreille. Au début des années 2000, ils avaient fait une petite exposition d'un choix de leur collection qui était déjà intéressante. Et c'est à l'occasion de cette exposition que j'avais découvert un certain nombre des artistes qu'on voit aujourd'hui dans The Color Line au musée du Quai Branly.
Et puis accessoirement, ça pose toujours la question de qu'est-ce que c'est que de l'art afro-américain ? En quoi c'est de l'art ? En quoi c'est spécifiquement afro-américain ? Alors on y reviendra tout à l'heure, mais justement, vous, en tant qu'enquêteur... commissaire, donc chercheur d'artistes, d'images, puisque vous couvrez dans cette exposition quand même quasiment deux siècles. Comment avez-vous procédé ?
Mais vous savez...
Pour Color Line, donc au musée du Quai Branly.
Oui, j'entends bien. On procède de... D'abord, on part de ce qu'on sait déjà. Hein. Moi, j'ai commencé mes premières découvertes en la matière. Comme je disais, ça date de la fin des années 80. Il y avait eu à New York, donc au Studio Museum, une exposition qui avait été organisée par Richard Powell, un des meilleurs historiens de l'art africain-américain, et qui s'appelait The Blues Aesthetic. Moi, je m'intéressais beaucoup à la relation entre la musique et les arts plastiques. À ce moment-là, j'avais déjà plus ou moins en tête de faire un jour une exposition qui s'appellerait Le siècle du jazz.
Et qui a eu lieu il y a combien, 5-6 ans?
Qui a eu lieu, elle a été produite en Italie en 2008 au musée de Rovereto, au MART, puis accueillie au Quai Branly en 2009. Et donc, ça m'intéressait, je dirais, latéralement. Depuis mon enfance, comme beaucoup d'autres personnes en France, en Europe, j'avais été passionné par la musique de jazz que j'ai découverte dans les années 50. Il y avait la fameuse émission de Daniel Filipacchi et Franck Thénault qui s'appelait « Pour ceux qui aiment le jazz » et qui a initié une génération entière à cette musique africaine, d'origine africaine-américaine. Et donc, je m'intéressais aux autres aspects de la culture noire. Ensuite est venue la littérature, le cinéma. On a lu les livres de Richard Wright parce que Richard Wright habitait à Paris et que c'était un auteur qui nous semblait sympathique et qui nous semblait important. Il était soutenu par des gens comme Jean-Paul Sartre. Mais les arts visuels étaient complètement absents de tout ça. Et moi, mon premier contact avec les arts visuels, donc, ça a été à la fin des années 80, comme je disais. Alors ensuite, on accumule, c'est un peu, je travaillais pas encore méthodiquement sur le sujet, donc c'est un peu le hasard des rencontres. Il y a eu des expositions que j'ai vues à New York ou dont j'ai vu le catalogue. Il y a eu une exposition de William Johnson au Smithsonian, c'est Washington plutôt que New York. Il y a eu une exposition de Bob Thompson au Whitney. Bob Thompson, il m'intéressait parce qu'il avait une très précise relation avec les musiciens de jazz. Et des amis musiciens que j'avais ici à Paris le connaissaient.
this little song that I'm saying about people you know is true. If you black and gotta work for a living, this is what they will say to you. They say if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white,
voilà, Bill Bill Bonzi, If You're White, It's All Right. C'est une chanson qu'on entendait beaucoup, Daniel Soutif, je pense, dans les années 60. Ça fait partie de vos disques préférés.
Oui, c'est un disque que j'ai en effet, c'est un des premiers disques que j'ai eu. C'était d'ailleurs un disque qui était, si je me trompe pas, enregistré en France, parce que Big Bill Bonzi a vécu en France, ou en tout cas il est passé souvent en France dans les années des années 50, et il avait été enregistré ici. Et ça, c'était, c'est vrai, c'était une chanson, un blues absolument emblématique.
Alors sur ce lien, Daniel Soutif, avec la France, il y a des choses qu'on découvre dans l'exposition qui est immense. On va juste en donner une petite saveur et des petits extraits, mais il y a une partie, puisque c'est consacré aux arts visuels noirs, donc derrière évidemment il y a toute l'histoire des mouvements de revendication noire, mais il y a une séquence qui est étonnante, c'est celle de l'exposition universelle de 1900, où il y avait, et on le dit pas très souvent, il y avait, et je cite, « exposition des nègres d'Amérique ».
Oui, alors cette exposition qui a été un moment important dans l'histoire de la lutte des Noirs contre la ségrégation et contre surtout les stéréotypes qui étaient véhiculés à leurs propos. Cette exposition, elle avait été organisée essentiellement par William Edward Burkhardt Dubois, ou Dubois comme on dit aux États-Unis, qui était vraiment un grand intellectuel, un des plus grands que la communauté noire ait produit, et qui a eu l'idée, à l'occasion de l'exposition universelle, de présenter d'abord 500 photographies montrant que les Noirs étaient des gens comme tout le monde et pas des gens avec des grosses lèvres, des yeux qui sont des billes et puis un air un peu stupide et des dents blanches. C'était des photos documentaires qui montraient aussi bien des portraits, la vie de famille, la vie d'église, l'épicerie, etc.
Le travail.
Et puis il y avait d'autre part des graphiques que Dubois avait commandés aux étudiants des universités noires de la Géorgie et qui donnaient des idées statistiques sur le nombre de Noirs dans ce une très très riche information. C'était, et il y avait aussi 1,5 million de livres pour aussi indiquer que non seulement les Noirs avaient toutes les caractéristiques normales de l'humanité, mais qu'en plus ils étaient aussi capables d'écrire des livres. Et donc cette exposition, c'est vrai qu'elle était très importante. Sa mémoire est très présente dans l'histoire de la communauté africaine-américaine. L'ensemble est conservé à la Library of Congress et donc très aisément accessible si certains souhaitent en savoir bien plus que le peu qu'on a pu évoquer dans l'exposition, parce qu'on a reconstitué, on a choisi une centaine d'images sur les 500 qui étaient montrées, on a choisi un certain nombre de graphiques sur les 70 qui étaient montrés. Et donc, si tout ça intéresse quelqu'un ici, il suffit de taper Dubois, Exposition Universelle 1900, sur le site de la Library of Congress. Et c'était très riche et ça a été très important et ça a été salué par des prix. Les organisateurs des compétitions de l'Exposition Universelle de 1900 ont pensé qu'il s'agissait de quelque chose qui méritait d'être récompensé.
Alors, à l'époque, donc, il y a les militants comme Dubois de l'avancement, puisqu'il est fondateur de la NAACP, c'est la Société pour l'avancement des gens de couleur.
Oui.
Hein. Et puis, on voit émerger aussi quand même une revendication d'identité nègre, c'est-à-dire pleinement assumée. Et là, on bascule au fil du siècle vers ce qui va être, dans les années 30, la Harlem Renaissance.
Oui, plutôt dans les années 20 et début des années 30 d'ailleurs. La Harlem Renaissance, c'est un phénomène culturel, cette fois on peut dire, marqué par de très très nombreuses figures artistiques, des écrivains, des poètes, des peintres, des musiciens.
Alors justement, on voit apparaître là des artistes visuels.
Voilà. Et ça, ça se passe, disons, dans les années 20, quand Harlem devient un lieu d'effervescence où tout le monde aime aller, aussi bien les gens de downtown que les Harlemites eux-mêmes. Alors à ce moment-là, c'est vrai, À part donc musiciens, écrivains, etc., dont certains sont très connus, comme Langston Hughes ou Quantico Lane ou Claude McKay, on voit apparaître une escouade de peintres qui sont fort originaux et qui méritent vraiment d'être mis en valeur.
Alors, il y a une grande figure que vous soulignez vraiment dans cette exposition, c'est Romare Bearden, qui n'est pas connu du tout en France, alors, qui est à la fois un théoricien et un artiste.
Oui, juste une précision quand même, parce que les grands noms de la Harlem Renaissance, proprement dite, c'est plutôt Aaron Douglas, Archibald Motley, et il y a une dizaine de peintres qui sont vraiment caractéristiques de ce moment-là. Romare Bearden, que vous nommez, qui est alors lui une figure qui traverse pratiquement l'essentiel du siècle, il arrive un peu plus tard. Il arrive au moment de la Harlem Renaissance finissante et il a d'entrée de jeu des positions assez originales. Il n'accepte pas les injonctions, par exemple, de Du Bois ou de l'intellectuel qui avait présidé à la Harlem Renaissance qui s'appelait Alain Locke, un philosophe, et qui disait qu'il fallait que les artistes noirs se réfèrent à leurs ancêtres africains. Et Bearden dit, moi je suis un Américain, j'ai pas plus de relation avec...
Je suis un artiste d'abord, quoi.
Je suis un artiste américain d'abord, avant d'avoir une relation spéciale avec l'art africain.
Alors, Alan Locke, il avait publié un texte qui aujourd'hui, enfin le titre étonne un peu, c'est The New Negro, le nouveau nègre.
Voilà, The New Negro, alors, du coup on revient un petit peu en arrière, à la Renaissance elle-même, c'est un ouvrage collectif dirigé par Alan Locke, qui était lui-même. Il se considérait comme un New Negro, évidemment, et publié en 1926, et qui fait un peu le portrait général de cette effervescence culturelle qu'on a appelée bien longtemps après Harlem Renaissance. Et donc Alain Locke, il synthétise dans cet ouvrage cette effervescence. Et l'appellation qu'il donne, c'est The New Negro, mais c'est tout simplement parce que Negro était un terme qui était le terme que préféraient utiliser les Noirs. Et donc le New Negro, c'est simplement pour indiquer que non seulement ils sont noirs, mais en plus ils sont capables de productions qui sont généralement considérées comme nobles et plutôt réservées aux blancs, comme de la littérature ou de la peinture ou de la musique.
Et pour Romare Bearden, déjà, il est après ça, lui.
Oui, lui, il arrive. Quand New Negro paraît, il est un tout jeune New Negro, alors. Et il n'est pas encore connu pour ses productions. Romare Bearden, il va apparaître sur la scène de l'art dans le courant des années 30. Et il va d'abord apparaître comme un artiste qui, avec des talents varié, il fait beaucoup de caricatures pour les revues de l'époque, les revues militantes noires comme Crisis ou comme Opportunity, mais il se lance aussi dans la peinture et il fait une peinture moderniste tout à fait remarquable, mais après la guerre, son style va se transformer et il va faire un grand, grand appel au collage, probablement en partie inspiré par Matisse et par d'autres spécialistes du collage, et il devient certainement un des deux ou trois très très grands artistes produits par la communauté noire au cours du XXe siècle. Il a d'ailleurs été déjà salué par une très grande rétrospective aux États-Unis qui avait commencé par la National Gallery of Art à Washington sous la houlette de la commissaire Ruth Fine. Et aujourd'hui, il y a quatre ou cinq artistes dont j'aimerais que les directeurs de musées français décident de présenter de grandes expositions monographiques maintenant, des grandes rétrospectives, et Romare Bearden est un de ceux-là.
Il y a Norman Lewis aussi, on découvre plusieurs œuvres très belles dans l'exposition.
Norman Lewis est tout aussi remarquable.
Mais il est plus reconnu déjà.
Je crois que Romare Bearden, en tout cas aux États-Unis, est certainement, c'est l'un des tout premiers noms qui vont venir à l'esprit de ceux qui pensent à africain-américain. Norman Lewis était très ami avec Romare Bearden. Il est un très très grand artiste et il a d'ailleurs, lui, c'est une rétrospective qui vient plus de 10 ans après celle de Bearden. Il a actuellement une grande rétrospective qui tourne aux États-Unis.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
This piece is a part of the space series, and it's called Charlie Parker. And I found a spade on the beach, and John Riddle, another artist, happened to have a saxophone and parts of mannequins, so we just stuck them together and gave birth to Charlie Parker. The music has just been so... so consistent over the hundreds of years that it's really shown itself very visible all of the years and the struggle that we've spent on the planet, where the art has been denied us for such a long time that we're like, I feel, at least 300 years behind our music, only because it's been taken away from us. So we're all still searching for the art form that expresses us best, and it's very obvious when you see a group show of black artists, the diversity within it. When we go to a jazz festival, there's a strong continuity, and the same level of intensity is present in the music form, where to me it's very visible that it's not in the art form as yet, but we're gaining.
Tout un monde, black, blue, green and red, ils sont eux aussi l'Amérique. Nous sommes en compagnie de Daniel Soutif autour de l'exposition Colorline. Ils sont eux aussi l'Amérique, c'est un titre que j'emprunte à Obama, puisqu'il a dit lors de l'ouverture du musée africain-américain de Washington, il faut prendre conscience que nous sommes nous aussi l'Amérique. Alors on entendait, Daniel Soutif, là, la voix rare de David Hammons, qui est un peu la figure iconique de cette exposition Colorline qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly. Et là, on a affaire à un artiste tout à fait contemporain, déjà un petit peu âgé, je crois qu'il a autour de 70 ans.
Oui, peut-être même un peu plus. C'est un artiste qui est en train de devenir absolument mythique, parce que plus sa gloire est grande, plus il devient lui-même invisible et inaccessible. Et c'est un artiste dont la carrière est maintenant en effet assez longue. Il a fait toutes sortes de choses assez extraordinaires. Il avait planté des filets de basket au bout de piquets très très élevés à Harlem dans les années 80. Il avait appelé ça « higher goals » pour indiquer qu'il y a des buts qui sont peut-être plus difficiles à atteindre encore que ceux du basket ou du sport, de la reconnaissance sportive. Il a fait toutes sortes de choses. Il a vendu des boules de neige dans les rues de Harlem. Il avait fait un portrait de Jesse Jackson transformé en blondinet dans les années 80, qui avait été mal interprété par des jeunes gens dans la rue. Il s'était installé dans la rue, qui avait du coup un peu tagué. Aujourd'hui, il est un des artistes tout simplement les plus chers du marché de l'art, toutes catégories confondues.
Mais il y a trois œuvres ou quatre œuvres dans l'exposition qui sont absolument frappantes.
Il y a trois œuvres importantes dans l'exposition. Il y en a même une quatrième qui aurait dû être montrée, mais qui s'est avérée trop fragile, et le studio de l'artiste a considéré qu'il était plus prudent de ne pas la montrer. Mais elle est déjà au Quai Branly. Elle est dans les sous-sols du Quai Branly. Elle appartient à la Fondation Cartier. Et je pense qu'il sera possible de la voir un jour ou l'autre à la Fondation Cartier. Il y a une autre œuvre qui appartient à la Fondation Cartier, qui est à la fin de l'exposition et qui est très très belle, qui est cette espèce de bouquet de masques qui sont un petit peu, qui flottent un peu, qui vibrent un peu de manière à la fois inquiétante et ironique. Et puis surtout, il y a le fameux drapeau africain-américain qui est à l'entrée de l'exposition, comme pour marquer tout le territoire de l'exposition, comme si ce territoire était momentanément déclaré un territoire africain-américain. Et puis, il y a une œuvre qui fait référence au basketteur Air Jordan, Michael Jordan. L'œuvre s'appelle Air Jordan. Mais évidemment, c'est certainement... c'est pas l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que il y a beaucoup, la forêt est quand même très visible maintenant, aujourd'hui, mais disons que c'est l'artiste culte d'aujourd'hui pour ce qui concerne l'art africain-américain. Et ça tient, bien sûr, à l'importance de l'œuvre et à la pertinence de l'œuvre, mais ça tient aussi à la finesse, à l'intelligence redoutable de la stratégie de l'artiste qui réussit à surfer sur tous les aspects du monde de l'art sans jamais en être prisonnier d'aucune façon.
Proclamation d'identité, mais en même temps, il est en retrait par rapport à ça.
Oui, mais plus il est en retrait, plus il est en avant, du coup. Et il applique, on pourrait dire, à la lettre quelque chose qu'on trouvait peut-être déjà dans le titre du grand roman de Ralph Ellison, Invisible Man. Aujourd'hui, David Hammond, c'est le parfait Invisible Man. Ça veut dire le noir le plus emblématique qu'on puisse imaginer sur la scène de l'art. Et je pense qu'il est reconnu comme tel par un peu tout le monde.
Walk to the garden. walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command.
Voilà, ça c'est le générique de la fameuse série de David Simon, The Wire. Alors, pour revenir à l'exposition Color Line, c'est vrai, Daniel Soutif, ne serait-ce que pour David Ammons, il faut y aller. Moi, je dois dire que c'est un artiste que je connaissais pas. Et il y a une petite installation à la fin qui est de toute beauté. Ce sont les masques. L'homme invisible avec ses multiples petits masques qui oscillent sur des sortes de tiges de fer. C'est absolument magnifique. Alors, je vais vous faire un tout petit reproche. On voit pas la black photo. Il y a eu quand même des gens formidables comme James Bond, comme Gordon Parks et surtout Roy de Carava. Ce sont des figures iconiques, ce sont des très très grands photographes des années 50-60. Ils sont absents. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait et qu'en particulier en ce qui concerne Roy de Carava, qui est un photographe immense, que je considère comme un des plus grands photographes du XXe siècle, toutes catégories confondues, c'est un photographe qui a inventé une stylistique du noir sur noir, en quelque sorte, vraiment éblouissante. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais c'est un artiste vraiment que je considère toujours comme un artiste de premier plan. Mais on n'a pas réussi à trouver un accord avec sa veuve au sujet de la présence de son œuvre dans l'exposition. C'est quelque chose que je regrette beaucoup.
Pour la prochaine fois.
Oui, peut-être, mais je crois que ce qu'il faudra, tout simplement, hein, et ça, je pense qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile d'obtenir l'accord de cet ayant droit, c'est qu'il y ait une grande exposition Roy de Carava à Paris, monographique, qui fasse découvrir aux Français cette œuvre, qui a été déjà montrée en long, en large au MoMA au moins 15 ou 20 ans.
Bon, avis aux décideurs, hein, et puis, il y a une dimension qui me semble peut-être un petit peu absente aussi dans la partie historique, c'est quand même l'énorme influence des églises. Noire, qui est quand même un peu zappé dans l'exposition. Or, des gens comme Du Bois, Martin Luther King, quand même, c'était un pasteur. Je veux dire, ça a été les lieux de contestation, ça a été les lieux de rassemblement. Ils sont peu visibles. Pourquoi ? C'est la laïcité française qui vous a fait peur ?
Non, c'est pas ça. C'est vraiment plutôt... D'abord, il y a quand même... Martin Luther King lui-même, il est fort représenté dans l'exposition et il y a beaucoup de matériel documentaire qui le concerne. Il y a un tableau d'Archibald Mottray qui montre une église noire en pleine furie, en quelque sorte.
C'est plus important que ça, quand même, proportionnellement, dans la communauté noire. C'est lieu même de réglementation sociale. Je veux dire, un jeune qui fauche, il va passer d'abord en tribunal devant son église. Devant les vieilles dames qui vont l'engueuler dans l'église.
Oui, mais le problème, c'est que il faut, quand vous lui montrez quelque chose dans une exposition, il faut trouver quelque chose de visuel.
Oui.
Voilà, et peut-être ceci explique cela.
Merci Daniel Soutif. En tout cas, un très très grand moment qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est cette exposition Color Line jusqu'au 15 janvier au musée du Quai Branly. Et puis, puisqu'on entendait The Wire, le générique, je vous signale la sortie du récit de Wendell Price, qui est l'acteur principal, Le vent dans les roseaux. Ça vient de paraître aux éditions du Sous-Sol. Et puis, simultanément, une exposition à Paris, La peinture américaine des années 1930. Qui est au musée de l'Orangerie et où il y a quelques artistes africains américains.
All my life I has to fight, nigga. All my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us then we gon' be all right.
Voilà, on termine avec la voix de Kendrick Lamar. C'est un peu l'hymne du mouvement très actuel, Black Lives Matter. Pour terminer donc Tout un Monde, le magazine des cultures, à la prise de son Jean-Michel Bernaud, à la réalisation Vanessa Nadjar, Tout un Monde chaque samedi avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, une émission proposée par Marie-Hélène Fraissé sur la page Tout un Monde du site France Culture. Vous trouverez donc quelques images de ces artistes que nous avons trop rapidement évoqués. Merci Daniel Soutif. Et sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
We've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy. I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah!